Tourne avec moi à Genèse chapitre 109. Genèse chapitre 109. On saute à travers un passage. C'est un passage assez long, mais assez rempli d'événements. Quand je cherche, j'ai pris ce truc de d'autres, c'est pas mon idée, mais c'est fun de donner un titre à une étude. Quand on fait une étude, on essaie de trouver c'est quoi le message fondamental à la base, et on essaie de découvrir c'est quoi le message dans ce passage, Genèse chapitre 39. Sur le titre que je me suis donné pour moi, pour l'étude, pour la préparation, c'est quand Dieu fait descendre. Non. J'ai triché. Ça, c'est M. Philippe qui avait montré ça. Il dit, prends ton titre dans le passage. Prends les mots qui sont là, ça n'invente de rien. Si quelqu'un te questionne, tu sais que ça vient de la parole de Dieu. C'est bien, c'est bon. Ça, c'est hein, M. Philippe. Hein, ma soeur, M. Philippe, ce sera bon, il disait. Ce sera bon. Ce sera bon. Alors, le premier verset nous dit que l'Éternel, on a fait descendre Joseph en Égypte. C'est là où on s'en va. Les prochains deux chapitres, on va regarder la descente de Joseph. La semaine prochaine, on va regarder Joseph qui va monter. Parce que l'histoire n'est pas complète, juste avec le chapitre 39. On a 40, 41, on a plein de choses qui vont arriver. Mais ici, on va regarder en détail la descente de Joseph. Juste pour vous donner l'eau à la bouche, pourquoi est-ce que nous, ça nous intéresse? Parce que des fois, Dieu va nous faire descendre. Des fois, Dieu va nous faire passer des épreuves, il va nous passer des choses, et on va se poser la tête, on va se questionner, on va dire, pourquoi Seigneur, ça m'arrive? Que ce soit une maladie, que ce soit une situation familiale, peut-être un événement au travail ou dans le voisinage, peut-être un événement dans notre pays. Et on va se poser des questions, pourquoi Seigneur? Et je vous assure que Seigneur a des réponses. Mon frère aîné m'a taquiné pendant longtemps en disant, les questions pourquoi ça appartient à l'Éternel. Ça, c'est à lui. Alors, on regarde ce chapitre, on se pose la question, c'est qui ce Joseph? Et si on me permet, je vais simplement essayer de continuer où ils vont nous a laissé la semaine passée. Et on se souvient, si vous n'avez pas été ici la semaine passée, vous êtes allé sur le site web, on a chargé ça ce matin, ça devrait être disponible. On n'est pas vite à faire les copies, on vous demande pardon. Mais Yvon nous a bien présenté le fait que Joseph, hein, le fils favori, de Jacob, le fils de premier-né de Rachel, je connais tout ça, il a 11 frères, une sœur, les frères sont jaloux de lui parce qu'il a un plus beau manteau. C'est ça qu'on enseigne avec le dimanche pour les enfants, mais c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vu la semaine passée comment que Joseph, ben, c'est un gars qui bavarde son frère, ses frères, hein. Il va dire à son frère toutes les choses qu'il fait et toutes les choses qui font mauvais. Puis j'ai l'impression, c'est moi. Moi, je connais les frères, moi j'en ai deux. On aime beaucoup ça, se taquiner. Des fois, on dit des choses que peut-être on devrait se taire. Et je suis sûr que Joseph disait à Jacob, tu sais-tu qu'est-ce que Ruben a fait? Tu sais-tu qu'est-ce que Simeon a fait? Sais-tu qu'est-ce que... Ben, je suis sûr qu'il a raconté toutes sortes d'affaires avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est le chouchou de son père. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Le pauvre petit garçon, il peut jamais être là. C'est le favori. Hein? Mais les autres, et on peut voir tout le scénario de la semaine passée arriver et comprendre que il y avait des émotions entre ces garçons-là. Et à la fin, on a pris Joseph, et qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait mis dans un système qui était vide, on l'a lancé dedans. Et les Écritures ne le disent pas ici, mais plus loin, ils vont nous revenir avec des détails. si on me mettait dans un citerne vide, je te dis que je ne serais pas silencieux. Surtout si moi j'étais le chouchou de la famille. Le monde va entendre. Moi je suis un expert, je ne sais pas vous autres, mais moi chez nous, je suis reconnu comme celui qui aime chialer. Toi aussi, right? OK. Si ça ne fait pas mon affaire, tu vas le savoir. Il est dans le trou, il est là, il n'est pas capable de sortir, il crie après ses frères, viens me chercher, la face c'est pas drôle, viens me sortir de là. Et tu peux voir les émotions. Et tu peux voir aussi les Bédouins qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent Joseph en comme esclave. Et là, on commence ici, dans chapitre 39, avec le fait qu'ils l'ont pris, ils l'ont descendu en Égypte.
Mais en fait, Joseph dit à ses frères, qui traçait le genou un jour que dépendrait de Joseph.
Ça n'a pas aidé, ça. Ça a mis le feu dans la paille, n'est-ce pas? Et tu dis ça à eux autres, et puis, regarde le rêve que j'ai eu, et tu dis ça à ton père, dit, arrête-moi ça. Puis lui, il sourit, parce que c'est lui qui a les rêves du Seigneur, il dit, on va t'en parler. Comme tu dis, d'accord, c'est quelque chose qui ressemble silencieux. Et c'est important pour nous à reconnaître. Juste pour vous donner un arrière-plan un peu sur ce que Dieu a fait ici dans les Écritures. Genèse a 50 chapitres. Combien de chapitres sont dédiés à Joseph? J'ai pas assez de doigts. 12 chapitres. Un quart de Genèse, c'est les histoires de Joseph. C'est beaucoup plus que la création. Création, on a eu ça dans deux chapitres. Ding, bang, boom, c'est fait en hiver. Waouh, c'est fait, c'est vite. Mais Joseph, son histoire est beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue qu'Abraham. Beaucoup plus longue qu'Isaac et Jacob. Littéralement, il y a plus de papiers dédiés à Joseph qu'aux autres. C'est fascinant quand même à savoir que Dieu veut qu'on voit quelque chose s'il nous donne tellement d'informations au sujet de Joseph. Quand Dieu parle, c'est important. Je ne vous déclare rien de nouveau, j'espère. Quand Dieu vous parle, c'est important. On doit l'écouter. Mais quand Dieu répète quelque chose à plusieurs reprises, c'est parce que c'est vraiment important. Quand on chante, Saint est l'Éternel. On est en train de dire quoi? Dieu n'est pas juste saint, mais il est très saint, il est le plus saint. On répète. Et ici, l'histoire de Joseph, on répète des choses qui reviennent et qui reviennent et des choses importantes. Paul nous dit que tout de suite, avant qu'on commence en chapitre 39, on est à un point tournant de la vie de Jacob. De Joseph. Il est le préféré de Jacob. Il est son chouchou. On sait très bien, on comprend l'histoire, parce qu'on a vu Jacob, on a vu Rachel, on a vu Léa, on a vu les dieux confirmés. On a vu toutes les histoires qui sont arrivées à cette situation. On comprend pas mal bien la situation familiale. Et en anglais, on dit c'est familial dysfunction. Comment on dit ça en français?
Famille dysfonctionnelle.
All right! On comprend! Ça marche mal. Toutes les choses qu'on a vues les semaines passées. Pour en arriver justement à ce point-ci, que le chouchou est dans la scène, on le vend en esclavage, on l'attache, on le monte sur un chariot, puis on l'amène en Égypte. Point tournant dans la vie de Joseph. Toutes les choses que Joseph a connues sont parties. Dans un instant, évaporées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent, à la télévision, on a vu les annonces sur le cancer. Et la personne est dans le bureau du docteur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez l'image. Oui, et on lui dit, et qu'est-ce qui arrive? La chaise tombe par en arrière. Tous les plans de sa vie, de cet individu-là, sont partis. Lui, il avait prévu ici, et ça, non. Là, c'est une guerre contre une maladie presque invisible, mais une guerre qu'on a des chances à survivre, puis on a aussi des chances de ne pas survivre. et dépendant comment ça vient, les nouvelles, et à quel point dans notre vie ça peut être un point radical. Joseph est dans ce point-là. Le chouchou avec le manteau de son frère, toutes les bénédictions sont parties. Maintenant, tout ce qu'il a, c'est des menottes. Tout ce qu'il a, lui, c'est rien. Et il part. Et pourtant, à travers chapitre 39, et je ne veux pas vous décourager, là, mais verset 39, il y a quelque chose que, moi j'aimerais ça que vous partez aujourd'hui avec cette idée dans la tête, parce que ça vous implique. Verset 2, verset 3, verset 5, verset 21, on va lire quoi? L'Éternel était avec lui. Même quand les choses de sa vie ont complètement transformé, complètement changé, d'être le chouchou de la famille d'Israël, de devenir quoi? L'esclave en Égypte. Même quand ça arrive. Incroyable quand on pense, Dieu est toujours avec lui. Et on va le voir justement à travers les chapitres à venir. Alors, Joseph, on veut donner, on parle justement de ça avant. Joseph était, probablement, on lui donne l'âge de 17 ans à ce moment-ci. Et comme esclave, moi je peux te dire, j'en ai des esclaves chez nous. Moi je les aime jeunes, j'aime ça les jeunes parce qu'ils sont forts, ils sont capables de faire des affaires. Quand Nicolas arrive chez moi et il dit, hey, pop, est-ce que tu fais quelque chose pour toi? Pas de problème, c'est bien plaisant. Et on fait ça, nous autres. Je ne sais pas vous autres, mais nous autres, on aime ça, les jeunes. On les apprécie. Ils sont très utiles. On a bien du fun avec. Ah, mais des vieux, mais. Bon, je t'aime bien gros, mais je ne peux pas lever un bus. Là.
Mais c'est pas vrai, ça.
Non, non,
c'est pas vrai. Ah, il y a rien, il y a
quoi? Ah, 4, ça va jusqu'à 85.
Ah, OK. Les gars, c'est bon, ça. Ça, on sait que Joseph est l'aimé de son père, il est haï par ses frères, à cause, en grande partie, parce que Joseph est un, c'est important, ça va revenir plus tard, là, il est trésor. C'est un gars avec des rêves, c'est un gars qui magasine avec des rêves, il comprend les rêves, il en a des rêves, il va interpréter les rêves des autres, il est très puissant. Et on voit cette situation, il est transformé par cet événement. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. En passant, très important verset dans la vie de Joseph, pas juste parce qu'il devient esclave, mais on va voir plus tard, mais il est acheté par un officier, Potiphar. Potiphar est chef de garde. Vous savez qu'on travaille avec le français. On a une limite, c'est qu'on n'a pas nécessairement une compréhension des langues originales. On essaie de traduire le plus proche qu'on peut. Mais il y a des choses culturelles qui viennent, des expressions québécoises, que si on les récite en français, un français de France ne va probablement pas comprendre. Simplement parce que nous autres, on a des contextes et des histoires qui viennent. La même chose si on parle d'amis. Moi, j'ai des amis français qui sont venus rester chez nous, hein, M. Mathioli, et puis ils essaient de nous expliquer les choses qu'on dit. Si on les dit en France, ça l'air, c'est des insultes. Moi, c'était des termes de gentillesse qu'on donnait entre moi et quelqu'un, et disait, non, en France, pas trop plus tôt. Langage a ce contexte. Chef de garde ici, il faut comprendre ce que ça veut dire. Si on a un premier ministre, ou si on a un président aujourd'hui, il va avoir des gardiens qui vont surveiller, des gardiens de corps, qui vont lui protéger, n'est-ce pas? OK. Et d'ailleurs, ce qui arrive, c'est que c'est ce qu'on appelle les agents secrets. C'est des gens qui ont énormément d'influence. Deux pour chose. Première chose, parce qu'ils doivent protéger celui qui est en charge, le roi, le président, le premier ministre. Ils ont beaucoup de responsabilités. Et avec ces responsabilités, il y a aussi beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Potiphar n'était pas juste un soldat. Potiphar était beaucoup plus que juste un soldat. Il était le soldat à côté de Pharaon. Et ça amène un deuxième point. Non seulement qu'il avait pouvoir et autorité, mais il avait aussi la capacité, il avait une capacité incroyable d'avoir une influence avec Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était là. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il connaît les secrets. il sait comment ça marche. Et le pharaon avait beaucoup de confiance avec des hommes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne les gardait pas. Et on va voir à travers l'histoire que ça a un énorme rôle dans la vie de Joseph. Tellement important. OK. Alors, moi j'ai une couple de questions qui vient avec ce simple verset. Les épreuves sont souvent là pour nous former. Les épreuves sont souvent là, Dieu les permet pour nous tester. Mais aussi, les épreuves sont souvent là pour nous humilier. Et j'en parle parce que Joseph souffre d'orgueil. On aime se penser que Joseph, c'est un bon gars. On va lire les passages et on va voir qu'est-ce que Joseph fait, puis on va dire « great comme Joseph ». Oui, mais tu ne veux pas être le Joseph de jeunesse. Tu veux suivre l'exemple de Joseph éprouvé. Parce que pourquoi il est humble? Il regarde l'Éternel avec un autre œil. Il regarde l'Éternel comme une source de protection. Il garde l'Éternel comme celui qui est avec lui et qui va lui bénir. Alors, c'est important de reconnaître qu'il est humilié. Il était prince en Israël, mais là, il est esclave d'un Égyptien. Et la question qu'on doit poser, la question, quoi, Dieu, tu veux te mettre dans cet esclave? C'est-tu parce que tu veux qu'il soit humble?
Oui.
C'est-tu parce que tu veux voir quelle sorte de jeune homme que c'est?
Oui.
Reconnu et qui sauva non seulement l'Égypte, mais sa famille et la famille.
Mais qui le sait? Joseph ne sait pas.
Non, il ne sait pas.
Nous, on a triché.
Oui.
Nous, on a lu les chapitres qui suivent. Hein? Je vous connais, vous autres, là. Vous cherchez les réponses. C'est très logique, ça. Dieu voulait l'avoir en Égypte parce que Dieu voulait l'avoir en Égypte. Et ça, là, il faut le comprendre. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, vous dites comment ça se fait, et la seule chose qu'on peut dire, si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est parce qu'il voulait que je sois là. C'est parce que c'était son plan. Je ne sais pas comment ça va virer, parce que je ne connais pas le futur, mais je sais très bien, c'est le plan que Dieu a pour nous. Alors, verset 2, l'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Chapitre 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confiait tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui l'appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Ça, c'est grave, ça, hein? Moi, je peux voir Potiphar arriver d'une longue journée, il organise toutes les activités du pharaon, il s'assied à la table, et quelqu'un lui place une assiette devant lui, et tout ce qui se préoccupe, c'est de l'assiette à la bouche. De l'assiette à la bouche. Ah, boy! Il doit être béni, un homme comme ça, qui peut revenir à la maison et savoir que tout est sous contrôle. Tout est géré. Pas de drame, pas de crise, et que c'est donc merveilleux.
Presque merveilleux.
Parce presque merveilleux, hein?
Parce qu'il
est par l'épreuve qu'il est. Et ça, je veux juste vous montrer quelque chose. Malgré l'épreuve que Dieu a placée sur Joseph, et moi je pense que c'est l'Éternel qui a permis tout ça. Il a permis les frères, il a permis tout ça. Moi je m'attends, c'est bien normal. Mais malgré tout ça, il a du succès. Et c'est fascinant de voir en action comment ce que ça arrive et comment Joseph peut prendre littéralement profit de cette situation. Il est bien situé, tout est beau, mais comme Charles dit, c'est pas tout parfait. Le problème, c'est la fin de verset 6 où il dit que Joseph était quoi?
Beau de taille,
beau de figure. Pourquoi pauvre Joseph n'aurait pas pu être un petit peu laid? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça n'aurait pas simplifié sa vie un petit peu? Ah, c'est, hey, écoute, c'est important. On aime ça être beau, on aime ça être belle, c'est sûr, mais à un moment donné, on réalise que ça ne nous donne pas un avantage, ça peut même nous nuire. Et dans le cas de Joseph, on voit verset 7. Okay? Après ces choses, il arrivait que la femme de son maître portait ses yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Et il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. » Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et jugerais contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Ah! Joseph est tellement sage! De rejeter la tentation, de rejeter. C'est important quand on y pense. Là. C'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de grave. Et pourtant, Joseph refuse. En pensant, ces deux arguments sont quand même intéressants. Le premier, il parle un langage que la femme de Potiphar va comprendre. Un langage humain. On fait souvent ça avec les enfants. Avec les maris, avec les épouses. On met les choses dans un contexte qu'ils vont comprendre. Ton mari m'a donné toutes les responsabilités, mais toi, tu n'as pas partie de ces responsabilités. J'ai pas d'affaire à toucher à toi. J'ai pas d'affaire. Alors, il donne le contexte humain. Mais le deuxième, tant qu'à moi, est beaucoup plus important, il pose le commentaire que pourquoi je vais faire quelque chose contre l'éternel? Et il est en train de dire, écoute, le principe, c'est pas juste pour mon maître, mais c'est parce que en haut de mon maître, c'est l'éternel. Et c'est plus important. Et en passant, c'est très fascinant parce que dans quasiment tous les commentaires que j'ai vus, on fait tout en référence à Psaume 51. Quand David se confesse son péché devant l'Éternel, son péché qu'il a eu avec Bathsheba, il dit quoi? Il dit, « Contre toi seul, j'ai péché. » Il reconnaît que le péché, c'est pas juste humainement en nous, mais devant l'Éternel, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus supérieur à tous les raisonnements humains. Mais la tentation est continuelle. Verset 10. Jour après jour, tous les jours, elle ne lâche pas. Elle ne l'accepte pas. Alors, verset 11. Un jour, elle était entrée dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement et en disant, couche avec moi, et lui laissait son vêtement dans la main, il s'enfuit de joie. Elle sait que Joseph est là, elle sait qu'il est tout seul, elle sait que personne ne va savoir. Et elle saisit, et Joseph, il va fuir. Mais le fait qu'il a fui, qu'elle est là, et elle dit, je dois m'organiser avec ce jeune-là. Elle pond à toute une histoire. Lorsqu'elle vit qu'elle a laissé son vêtement dans la maison et qu'il était enfui dehors, elle appelait les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et a posé le vêtement, bien avec soin, à côté d'elle jusqu'à son maître rentre à la maison. On va voir ce que toi tu vas avoir dit. Hein? Sur la surface, tu as peut-être raison. Mais attends, il y a des choses spéciales là-dedans. Premièrement, on sait qu'elle parle avec son mari, verset 7, elle dit l'esclave hébreu. Il faut comprendre que le mot hébreu pour l'Égyptien, c'est une insulte. Okay? Le racisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longue date. Une des choses qu'on constate, c'est que une des raisons que Dieu a envoyé Jacob et toute sa famille en Égypte pour 400 ans, c'est de leur protéger. Leur protéger pendant un temps où ils étaient sous l'influence des Canaanites, qui étaient des païens. mais qu'on a vu dans les chapitres précédents, ils aiment bien ça faire le commerce. Ils voulaient se marier avec les Hébreux. Les Égyptiens, c'est pas le cas. Les Égyptiens gardaient les Hébreux. Ça, c'est des bergers. Ils s'occupent des troupeaux. C'est des gens inférieurs à nous. Nous sommes des Égyptiens. Et ils pètent la bretelle. Et elle est en train de dire son mari, tu sais, chercher une salle, c'est les Hébreux. Tu vois quelle sorte de personne que c'est. Regarde, il essaie de m'attaquer. Et elle sert de ça pour vraiment mettre en place la conversation. Et comme Charles a dit, Potiphar va réagir. Il va réagir, il va le prendre, il va le mettre dans la prison. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Jamais besoin qu'il dit qu'il était enflammé en colère contre Joseph. Peut-être. Mais il prend Joseph, il met dans le fond de la prison le pire au monde. Non.
Mais s'il a réussi en colère, il a réussi en colère.
Il prend Joseph, il met dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. C'est pas une prison pour les pauvres, c'est pas une prison pour les esclaves. En passant, il n'y avait pas de prison pour les esclaves. Un esclave qui embarque dans un acte sexuel avec l'époux, on enlève la vie. Un esclave, c'est la propriété. Moi, j'ai un auto qui m'a bien servi pendant longtemps. Mais à la longue, elle a éprouvé certaines caractéristiques. Et sur un des retours d'un voyage d'affaires à Toronto, je suis assis et mon auto commence à faire des choses que j'aime pas. Et moi, j'ai tourné vers mon auto en conduisant. J'ai dit, baby, your days are numbered. Tes jours sont nombrés. Deux semaines plus tard, j'aurai un autre auto, OK? La propriété est à moi d'amicat noir, je vais me débarrasser quand ça me tente, je vais faire ce qui est bien, je vais faire ce qui me semble bien, et c'est à moi, c'est pas à personne d'autre. Un esclave qui fait de quoi dans la maison du maître, il est mort. Mais Potiphar l'a fait de quoi? Et ça devient encore plus complexe. Potiphar va mettre en prison, et Joseph va être en prison, devine quoi? Joseph ne pourrait pas être lié en prison. Il va devenir quoi? Hein? On lit un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Il fut lié, il fut là en prison, OK? Et qu'est-ce qui arrive? Il dit, l'Éternel fut avec Joseph. Encore, il descend plus loin. Hein? Il n'est plus esclave dans une maison d'un homme important dans le pays d'Égypte. Il devient quoi? L'esclave dans la prison. Et là, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et il l'a pris comme son assistant. Tu n'es pas capable de partir, tu es ici, tu es aussi bien travaillé, tu es jeune, tu es capable. Et l'Éternel lui donne énormément de privilèges. Je vous pose quelques questions. Est-ce possible que Potiphar croyait Joseph, mais ne croyait pas sa femme?
D'après moi, il a été trahi, d'autant plus trahi quand Joseph a voulu violer sa femme. Mais je te donne une demi-miséricorde. Je devrais te tuer, mais je t'envoie en prison pour que tu te réfugies dans toi.
OK. Moi, je me suis marié il y a 49 ans et quelques mois, une petite compte les jours. Depuis ça, là, j'ai appris à connaître mon épouse. Penses-tu que Potiphar ne connaissait pas sa femme?
Oui, bien sûr.
Moi, je suis sûr que ce n'est pas le premier et le dernier fois que sa femme a fait quelque chose, puis lui a dit
Encore une fois.
Moi, je suis sûr que, ça c'est moi, OK? Les Écritures me donnent l'image qu'il a bien traité Joseph malgré le crime qui lui a été accusé. Il veut apaiser sa femme. il est fâché. Pourquoi? Parce que lui, il s'entendait de venir à la maison, de s'asseoir devant son assiette et de quoi? De prendre la nourriture de l'assiette et mettre dans la bouche. Mais non, là, là, il y a une chiale, il y a une crise, sa femme est toute bouleversée. Il prend Joseph et il met dans la bouche. Et on pense que c'est fini pour Joseph. Et il se l'est. Mais il n'est pas mort. Et en prison, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des responsabilités, on lui donne des autorités. Moi, je pense que Potiphar connaissait très bien la situation, il n'était pas de nous. Pas d'accord qu'il n'a pas défendu Joseph, mais que tu veux. L'Éternel est avec Joseph, et c'est ça qui arrive. Verset 1 de chapitre 40, on va regarder le chapitre 40, parce que ça va nous mettre un peu à l'œil. On a institué une session où il y a deux des prisonniers qui sont là. On ne nous dit pas leur crime. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ils ont des rôles importants. Alors, moi, je suis obligé de prendre un dictionnaire parce que moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. Et quand on me parle d'une échanson, un panetier, je comprends pas. Mais en faisant des recherches, je comprends un peu. C'est qui l'échanson? C'est lui qui pourvoit pour Pharaon, c'est breuvage. Quelle meilleure place pour mettre des poisons, hein? Ça prend quelqu'un qui surveille ça, quelqu'un qui est responsable. Peut-être qu'il a échappé un verre sur le genou du Pharaon, et Pharaon était fâché. J'aime tellement ce robe-là, et puis là, c'est tout caché avec le vin. On le met en prison. Je ne sais pas quel crime qu'il a fait. Mais il a fait quelque chose pour se rendre en prison. Le panetier, encore un mot que moi je ne connais pas, m'en sert pas d'une façon quotidienne. Alors, il faudrait découvrir que c'est le boulanger. Sa responsabilité, c'est le pain que le pharaon va manger. Encore une personne qui a énormément d'influence, qui est proche du pharaon, et pour quelque raison, lui aussi, on le met en prison. Et c'est fascinant comment c'est dit. Le pharaon fut irrité contre les deux. Le chef des échansons et les chefs des panetiers, il les fit mettre à la prison du chef des gardes dans la prison. Juste pour vous taquiner, chuchoter, le mot ici, chef de garde, c'est le même mot qu'on a en verset 2 de chapitre 39. Potiphar est le chef de garde. La prison appartient à Potiphar. Je te dis, quand il a placé Joseph dedans, c'est à lui, c'est sa propriété, Joseph. Joseph, je vais te mettre quelque part et tu vas être là. Et que lui, il arrive avec les prisonniers, puis je suis sûr qu'il a vu Joseph, puis je suis sûr qu'il l'a dit. Bien, c'est bien, Joseph est ici, il va s'occuper des affaires. Je suis sûr que lui, dans son esprit, ces deux prisonniers, parmi les autres, on met Joseph en charge. Pas de problème. Non. C'est qu'on voit qu'ils sont sous la surveillance de Joseph et pendant la même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun leur sien. Ils pouvaient recevoir une explication distincte. Ils ne comprennent pas les rêves. Est-ce que vous avez des rêves que vous ne comprenez pas? Moi, j'en ai tout le temps que je. Et la partie que j'aime beaucoup, c'est que l'Éternel m'a enlevé ma mémoire. Donc moi, j'ai oublié le rêve quand je me lève, alors je fais. Hein, ça me dérange, pourquoi? Peut-être une couple de minutes. Parce que pourquoi je ne me souviens pas? Mais ces gars-là, ils ont des rêves, et ça me dérange. Ils cherchent à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Non, en Égypte, ça c'est très commun que les gens avaient des interprètes qui venaient et qui leur expliquaient les rêves. Souvent, les explications stupides, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive quand on tombe dans ce piège-là. Alors, il questionne et il dit, pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Il répondit, nous n'avons eu un songe, verset 8, et il n'y a personne à l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qui appartient les explications? C'est ça que je vous ai dit au commencement, un frère m'a dit, les questions pourquoi? Dieu est le raisonnement, c'est lui à qui appartient toutes les explications. Racontez-moi donc votre songe. Et les chefs de la chanson racontent son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Joseph avait trois serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et les grappes donnèrent leurs raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon. Et Joseph lui dit, et voici l'explication, les trois serments sont trois jours. Et encore trois jours, Pharaon relèverait la tête et te rétablirait dans ta charge. Tu mettrais la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Alors l'explication est claire, et c'est des bonnes nouvelles. Et Joseph va le suivre avec une demande, ok? La demande c'est ici, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph, il cherche des bonnes références pour qu'il puisse sortir de prison. Et c'est très logique. Dans verset 16, le chef des panetiers, voyant Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille il y a la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangèrent dans le corbeau là au-dessus de ma tête. Alors Joseph lui répondit en disant, et voici l'explication, les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeraient la chair. Moi, je ne sais pas, mais si j'avais l'explication, il semble que j'essaie de trouver une façon plus délicate. Hein? Vois-tu? Peut-être que ça va virer mal, hein? On va voir dans trois jours. Non, non, il dit. Et c'est triste. Et c'est très bien qu'est-ce qui arrive, verset 20, le troisième jour, c'est la fête de Pharaon, et il va faire sortir tous ses serviteurs pour un festin, et il va élever la tête du chef des échansons, la tête du chef du panetier, au milieu de ses serviteurs. Il va réétablir le chef des échansons dans sa charge des chansons, et pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fait prendre le chef de panetier selon l'explication de Joseph leur avait donnée. Qui veut dire quoi? Il a coupé sa tête. Le chef des échansons ne pense plus à Joseph. Dernier mot de verset 23, très important. Il oublia. Et moi, je trouve ça drôle. Il aurait pu dire d'autres choses, mais non. Il oublie Joseph. Il oublie la demande de Joseph. Il oublie la seule explication. Pour lui, là, c'est parti de la tête. Il a la vie est faite. Il a tourné à la force. Il a la crédibilité. Je me suis vraiment mis dans une situation et je suis rétabli. Mais il pense sur la demande de Joseph. Et encore une fois, comme auparavant, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'il a oublié?
Non, la
mémoire humaine est oublieuse. OK. Moi, je vois ça, oui. C'est logique.
Mais la prison, bon, il est tellement heureux d'être sorti de la prison parce qu'il est dans une prison de croire. Nos prisons aujourd'hui sont plus luxueux pour la prison de Joseph.
Je suis sûr de ça. Mais je vous ai déjà donné la réponse. La raison pour laquelle il a oublié, c'est parce que Dieu voulait qu'il oublie. Il voulait Joseph dans la prison. Tu lis chapitre 40 et tu dis, ah ben non, c'est évident. Joseph est appelé à des grandes choses, il est capable d'interpréter les rêves. Pourquoi est-ce qu'on le laisse en prison? Parce que Dieu veut le garder en prison. Dieu veut protéger Joseph du monde autour de lui jusqu'au moment où il en a besoin. Et Joseph, je sais qu'il veut sortir. Moi, il y a des choses dans ma vie, je veux changer. Mais Dieu veut qu'on subit ce qu'on veut. Dieu a un plan pour la vie de Joseph. Et ce plan n'est pas évident à Joseph. il doit certainement, après des années de service, comme esclave, comme prisonnier, comme chef de prison, il va avoir plein d'idées en tête en disant comment ça se fait que j'endure toutes ces épreuves-là. Mais vous voyez, c'est Dieu un plan. Dieu a un plan pour lui. Un plan merveilleux. Et on va le voir, évidemment, la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, Joseph n'est pas en train de descendre. La semaine prochaine, on va voir Joseph monter. Mais il faut comprendre que cette application à Joseph, pourquoi 12 chapitres dans le livre de Genèse? Parce que nous autres aussi, on est dans le même bateau. On est orgueilleux, on se pense bien. Peut-être que vous êtes le chouchou chez vous, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes le favori du patron. Peut-être que vous avez un rôle important. Peut-être que vous êtes un génie et vous avez les meilleures notes dans votre classe à l'université. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver en disant je suis quelqu'un. Et Dieu veut dire, nous, comme il dit à Joseph, fais une minute. Tu m'appartiens. Je vais faire avec toi comme ça me semble bien. Et Romains 8, 28 nous dit. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une chose que j'ai appris, moi, dans ces deux chapitres, c'est que Joseph, il aime Dieu. Je sais que Joseph, il veut plaire à Dieu. Et je pense qu'il a pris ça sur le chameau, hein, menotté, en train de descendre. Il est en train de dire, j'ai bien, tout ce qui me reste, c'est ça. Il est en train de dire. Convaincu qu'il y avait une transformation dans sa vie, puis je suis sûr que c'était sur la route. La route chaude, souffrante. Et pourtant, il arrive et Dieu est avec lui à travers ses passages. Mais pour nous aussi, Dieu est avec nous. Si on tourne à notre Seigneur, si on confesse notre péché, si on tourne de notre orgueil et on dit à Seigneur, fais avec nous ce que tu penses bien. Parce que je sais que tu m'aimes, tu vas s'occuper de moi.
Nani, tu as récité la première partie de la vertu. Mais, pour continuer la vertu, parce que c'est important dans le cadre de Joseph. Parce que c'est, avec ma version aussi, là, de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément selon son plan. Mm-hmm. Donc, c'était le plan de Dieu pour Joseph, qui est dans ma cour. Parce qu'il avait appris.
C'est important.
C'est très important.
C'est très important. C'est ça que je dis. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ça peut venir avec des épreuves. Mais les épreuves, on ne les veut pas. Moi, je ne les souhaite à personne. Mais de l'autre côté, si l'Éternel est en contrôle, c'est la meilleure personne avec qui je passe les épreuves. Est-ce qu'on doit accepter les bonnes choses? Je pense que c'est les mauvaises. On est-tu capable? C'est Dieu qui dit. Alors, il est toujours avec nous. C'est ça la chose pour reconnaître, pour mettre notre confiance en lui.
Comme un été lui a coûté cher. Mm-hmm. Il a retrouvé couché avec une femme perverse.
Et humainement parlant, Charles, on parle de ça comme des gens qui habitent l'an 2025. On voit les choses autour de nous, on sait comment ça marche. Joseph aurait pu être tenté en disant, hey, c'est une femme puissante, peut-être elle va être capable de me libérer. Peut-être ça peut être du bien pour moi. Mais il ne faut pas penser comme ça. Aujourd'hui, le monde pense comme ça, comment je peux m'avancer, et littéralement.
C'est comme on fait, il va être encore plus dans la merde. Il ne voulait pas être dans le trou, et il sait que Dieu le regarde.
Il sait très bien.
Dieu le regarde 24 heures sur 24, c'est Dieu qui sait. Alors, et Joseph, il ne peut pas avoir des comparaisons de la vie de cela.
Joseph, il savait très bien. L'Éternel était avec lui, il me soulevait. Et il savait très bien qu'est-ce qu'il était bien.
Mais je peux te dire que tu en connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité au jour du jugement. Comme il saura que sa femme, que Joseph disait la vérité, parce que je n'ai pas couché avec sa femme. Mm. C'est ta femme qui m'a fait des avances, que il n'a pas voulu. J'ai rejeté des avances.
On peut-tu terminer avec un mot de plein? Père éternel, est-ce qu'on peut apprendre ces leçons de Joseph? de savoir que tu es là, que tu es avec nous dans les épreuves et que tu nous surveilles, que nous, on est redevables, mais redevables surtout à toi, pour qu'est-ce qui sort de notre cœur, qu'est-ce qui sort de notre bouche, quelle action qu'on fait, quel geste, où est-ce qu'on va, Seigneur, c'est devant toi qu'on fait ces choses. Père éternel, on demande que tu nous guides, que tu nous pardonnes lorsque nous faisons ces péchés, que tu nous amènes à être humble, à confesser et à chercher à te plaire. On demande que tu puisses nous aider pour avoir un témoignage comme Joseph, un qui démontre que tu es avec nous, qu'on est un reflet de ta gloire ici sur la terre. On demande ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître.
Amen.